Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce rendez-vous littéraire consacré à une figure historique de la littérature, Ingeborg Bachmann, et d'avoir à mes côtés l'actrice Vicky Krieps et l'écrivaine Cécile Ladjali. Vicky, tu es actrice et tu as récemment joué le rôle d'Ingeborg Bachmann dans le film de Margaret von Trotta, Voyage dans le désert, librement inspiré par les dernières années de la vie d'Ingeborg Bachmann et de sa relation avec l'écrivain Max Frisch. Cécile Ladjali, vous êtes écrivaine et professeure de littérature. En 2009, vous avez écrit Ordali, un roman retraçant librement l'histoire d'amour entre Ingeborg Bachmann et le poète Paul Celan. Vous avez également postfacé le volume des œuvres d'Ingeborg Bachmann aux éditions Actes Sud, maison où vous avez tout récemment vous-même publié le roman La nuit est mon jour préféré. Avant d'échanger ensemble, je vais prendre un petit peu de temps pour vous présenter cette femme en quelques minutes, ce qui ne va pas être facile. Cette femme énigmatique et audacieuse qui fut à la fois une écrivaine, une poétesse, mais aussi une philosophe importante sur la scène littéraire de l'après-guerre. L'écrivain Thomas Bernhard dira d'elle « Elle est la poétesse la plus intelligente et la plus importante que l'Autriche ait jamais produite au cours de ce siècle. » Mais c'est autant son œuvre et la radicalité de sa volonté créatrice que sa vie tourmentée qui ont fasciné ses contemporains. Sa mort tragique à Rome des suites de ses brûlures en 1973 contribua à alimenter l'aura mystérieuse de Bachmann, une femme à la fois si forte dans son écriture et ses prises de position et si fragile dans son existence intime où elle s'est consumée dans la passion et le chagrin. Mais s'il y a bien quelque chose qui la caractérise, c'est son indépendance d'esprit, son refus de fléchir, sa lutte acharnée toute sa vie durant contre la violence et la guerre. Ses convictions irriguent son œuvre littéraire, dans laquelle elle affirme sans concession son refus du conditionnement social, de toutes les idéologies ou catégories qui figent l'identité dans un système de pensée excluant et injuste. Ce sentiment qu'il faut à chaque instant combattre les pouvoirs qui oppriment et qui tuent, s'enracine pour elle dans le rejet de l'insoutenable dans l'histoire de son siècle. Elle fait partie de cette génération d'écrivains dont l'enfance a été saccagée par le nazisme et elle n'a eu d'autre choix que de porter un regard lucide et désabusé sur le monde, hantée par la crainte que le passé ressurgisse dans le présent. Elle est née en 1926 à Klagenfurt, à la frontière de l'Autriche, de la Yougoslavie et de l'Italie, dans une famille pétrie d'idées nationalistes. Son père adhère au parti nazi dès les années 30, mais elle va choisir de résister pendant l'occupation contre le fascisme avec pour seul allié la littérature. Et c'est la collision entre ces deux situations qui provoque chez elle un conflit intérieur qui la rentrera toute sa vie et qui sera au cœur de toute son œuvre. Le besoin de dire la vérité et la douleur de révéler une vérité qui lui fait honte. Son œuvre vient de son besoin de comprendre la manière dont le fascisme s'enracine dans l'histoire et les structures mentales. Après la défaite de l'Allemagne, elle éprouve un grand soulagement et poursuit ses études de philosophie. Mais elle a le sentiment que la guerre rôde toujours, tant qu'une chape de silence étouffe la société autrichienne qui veut évacuer son passé nazi. Dès son arrivée à Vienne en 1946, elle rencontre les écrivains du célèbre groupe 47 et s'engage à défendre à leur côté la nécessité d'un renouvellement de la littérature. Ce mouvement émane d'une inquiétude philosophique et existentielle. Comment continuer à écrire et à parler en allemand alors qu'on a été dépossédé de sa langue, alors qu'elle a été au service d'un appareil de propagande et de mort? Il n'y aura pas pour elle de monde nouveau sans langue nouvelle, sous-tendue par une exigence éthique, celle de représenter son temps avec le plus de lucidité possible, loin de toute idéologie, et d'offrir de nouvelles possibilités de compréhension. La rencontre avec le poète Paul Celan va renforcer en elle ce sentiment immense de responsabilité et la conviction intime que la poésie est une arme contre l'inhumain. En 1952, elle obtient le très prestigieux prix du groupe 47 pour son recueil « Le temps en sursis ». Sa poésie éblouit par son dépouillement, son incandescence qui vise l'émotion au plus haut point. Et elle fait même, à cette époque, la couverture du Spiegel. En 1953, elle met fin à ses activités radiophoniques et décide de se consacrer à l'écriture. Elle voyage et publie le recueil de poèmes « Invocation à la grande ours », où l'on retrouve toute la sensualité des paysages de l'Italie et certains de ses plus beaux poèmes. Elle écrit en 1956 une pièce pour la radio bavaroise, « Le bon Dieu de Manhattan », et provoque, sans le savoir, une rencontre qui changera le cours de sa vie. Max Frisch, l'écrivain suisse-allemand, entend sa pièce à la radio et lui écrit son admiration. Pendant 5 ans, il s'engage dans une relation déchirante faite de rupture et de réconciliation. Leur liaison se terminera de manière très brutale en 1962, à la suite de laquelle Frisch décide de publier un texte mettant en scène leur histoire tourmentée. Ingeborg Bachmann vivra cet épisode comme une trahison irréparable et une entreprise de destruction de sa personne. Malgré son effondrement physique et psychique qu'elle traverse à cette période, elle continue d'écrire, de voyager, de s'engager dans le monde et de vouloir se libérer de ses traumatismes. Les dernières années de sa vie seront solitaires et son roman Malina, que tout le monde attendait, sera mal accueilli par la critique. Elle meurt à 47 ans en laissant des milliers de pages inachevées. Ingeborg Bachmann est une femme qui aura vécu dans l'excès jusqu'à se brûler dans la passion et l'autodestruction, mais elle laisse à son lecteur le sentiment que l'expérience de la peur, de la déchirure, de l'amour, de l'écriture peuvent être au fondement du nouveau, si on accepte d'assumer jusqu'au bout le passé, avec ce qu'il peut avoir de plus déchirant. Écrire, pour elle, n'est pas autre chose qu'un mouvement d'amour vers l'autre, un élan qui nous engage à chercher le mot juste pour surmonter la distance. Cette confrontation avec la violence de la vie n'aboutit jamais pour elle à une vision nihiliste ou désespérée, car le texte littéraire est toujours fragment d'espoir. Il a beau être imparfait, inachevé, ne pas donner toutes les clés pour sortir du désespoir, mais il a la tâche de dévoiler la fêlure, d'où peut surgir cette étincelle de lumière dans l'obscurité.
Merci beaucoup Charlotte pour ce texte très riche. Cette présentation qui nous permet de bien cerner la figure d'Ingeborg. Vicky, tu vas nous lire un poème qu'Ingeborg Bachmann a écrit et qu'on retrouve dans le recueil « Invocation à la grande ours » qui a été publié en 1956. Tu vas nous le lire d'abord en français, puis en allemand. Nous t'écoutons.
Ce qui est vrai. Ce qui est vrai ne jette pas de poudre aux yeux. Ce qui est vrai, sommeil et mort l'exigent de toi. Comme ancré dans ta chair, chaque douleur portant conseil. Ce qui est vrai déplace la pierre de ta tombe. Ce qui est vrai, même hors de portée, évanescent dans le germe et la feuille, dans le lit pourri de la langue, une année et une autre année, et tous les ans durant. Ce qui est vrai ne crée pas de temps, il le compense. Ce qui est vrai fait la raie à la terre, démêle, rêve et couronne, et les travaux des prés, monte sur ses ergots, et plein de fruits extorqués, te foudroie et te boit tout entier. Ce qui est vrai n'attend pas l'expédition des prédateurs, ou pour toi peut-être tout est en jeu. Tu es sa proie, qu'on s'ouvre tes plaies. Rien ne t'attaque qui ne te trahisse en fait. Arrive la lune et ses cruches de fiel, alors bois ton calice. La nuit tombe amère. Dans les plumes des pigeons, floconne la lie. tant qu'une branche n'est pas mise à l'abri. Tu es prisonnier du monde, de chaînes encombrées, mais ce qui est vrai trace tes fissures dans le mur. Tu veilles et guettes ce qui est juste dans l'obscurité, tourné vers l'issue inconnue. Ouh, ok. Was wahr ist. Was wahr ist, streut nicht Sand in deine Augen. Was wahr ist, bitten Schlaf und Tod dir ab. Als eingefleischt von jedem Schmerz beraten, was wahr ist, rückt den Stein von deinem Grab. Was wahr ist, so entsunken, so verwaschen, in Keim und Blatt, im faulen Zungenbett, ein Jahr und noch ein Jahr und alle Jahre. Was wahr ist, schafft nicht Zeit, es macht sie wett. Was wahr ist, zieht der Erde einen Scheitel, kämmt Traum und Kranz und die Bestellung aus, es schwillt sein Kamm und voll gerauften Früchten schlägt es dich und trinkt dich gänzlich aus. Was wahr ist, unterbleibt nicht bis zum Raubzug, bei dem es dir vielleicht ums Ganze geht. Du bist sein Raub beim Aufbruch deiner Wunden. Nichts überfällt dich, was dich nicht verrät. Es kommt der Mond mit den vergällten Krügen. So trinkt dein Maß. Es sinkt die bittere Nacht. Der Abschaum flockt den Tauben ins Gefieder und wird nicht ein Zweig in Sicherheit gebracht. Du haftest in der Welt, beschwert von Ketten, doch treibt, was wahr ist, Sprünge in die Wand. Du wachst und siebst im Dunkel nach dem Rechten, dem unbekannten Ausgang zugewandt.
Merci, merci beaucoup, Vicky. Quand est-ce que tu as découvert Ingeborg Bachmann pour la première fois? Quelle est ta première rencontre avec cette œuvre?
À l'école, j'ai toujours beaucoup aimé la poésie, parce que chez moi c'était très bruyant et la poésie était comme une réponse un peu plus silencieuse à quelque chose que je ne comprenais pas très bien chez les humains. Et oui, mais c'était vraiment que la poésie au début. Donc, je connaissais la poésie, je connaissais un peu ses romans, mais pas tout. Et c'est quand j'ai fait le film que je suis vraiment tombée dans tout l'univers et tout ce qu'elle a écrit. Elle a écrit énormément de choses. En fait, c'était quelqu'un de très travailleur. Elle travaillait beaucoup. Elle écrivait beaucoup de choses sur beaucoup de choses. Mm-hmm. Ouais.
Donc, à l'occasion du film de Margarete von Trotta, Voyage dans le désert, que tu as tourné, tu as beaucoup lu Ingeborg Bachmann. Qu'est-ce qui t'a le plus touché dans son œuvre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement interpellée?
Comment dire, c'est comment elle porte les mots. Donc elle se rendait compte que chaque mot peut être la fin de tout et le début. Ça peut être la chose salvatrice et en même temps la chose destructe. Ça peut être le gouffre et ça peut être le paradis. Donc chaque mot porte la responsabilité de ça. Alors comment parler si tu sais que tout ce que tu dis peut vouloir dire la fin de tout ou le début, et, ou l'espoir ou la détresse. Et c'est ça qui m'a le plus parlé, je crois, ou touché, ou parce que c'est vrai, c'est tellement vrai, et on n'y pense jamais.
Charlotte, dans ce poème, Ce qui est vrai, qu'est-ce que tu retiens de ce poème et de ce rapport éventuellement à la vérité qu'elle a?
C'est vrai que ce poème, avec cette répétition, ce qui est vrai, ce qui est vrai, il y a quelque chose, pour moi, de l'ordre du courage de la vérité. C'est-à-dire que le courage, il ne suffit pas d'être courageux une fois. Il faut recommencer à chaque instant le courage. Et quelque part, oui, la vérité n'est pas une question d'intelligence, de connexion logique, de concept. Non, la vérité, c'est pas le contraire de l'erreur pour elle. C'est le contraire de la lâcheté, de l'hypocrisie, de tout ce qui peut faire qu'on va se contenter de quelque chose qui est confortable, qui nous permet d'ordonner quelque part le réel de manière très sécurisante. Et quelque part, pour elle, la vérité, elle est du côté de l'expérience, elle est du côté du corps, elle est du côté de tout ce qui va faire vaciller le concept. Donc, il y a ce verre que je garde en moi, ce qui est vrai trace des fissures dans le mur. C'est une image très forte, mais la vérité est du côté de la fêlure, de la fissure, dans ce qui vient fracturer les représentations confortables qu'on peut avoir. Et elle cherche la fêlure dans le langage aussi, dans l'ambiguïté entre les mots. Et c'est ça qui est très... très puissant dans ce poème. Et elle utilise des images très physiques, très concrètes. Et donc elle va quelque part, parce qu'elle a beaucoup étudié la philosophie, donc elle a beaucoup étudié les concepts, et elle dit toujours, oui, c'est bien beau les constructions logiques, oui. Mais quelque part, qu'est-ce que la peur ? La peur, l'effroi, c'est ce qui te prend les tripes, qui tout s'effondre à ce moment-là.
Et donc, c'est ça le courage, c'est ça le courage qu'elle avait, c'est le courage de dire que la vérité, c'est l'erreur. Comme tu dis, essayer à nouveau, mais parce que je sais que je vais tomber dans l'échec, je sais que je vais pas y arriver, mais je le refais, je recommence, je crois dans, elle croyait dans l'utopie, elle croyait dans le bien, même si le monde lui montrait l'opposé, mais je crois que là-dedans, elle était pour ça courageuse, parce qu'elle était humaine, elle était courageuse de sa propre humanité. Ok, je suis humain, et je fais des erreurs, même si, philosophe, je comprends tous les concepts et je pourrais m'enfermer dans les structures.
Cécile Lajali, vous avez écrit un texte sur Ingeborg Bachmann, une postface à ses œuvres aux éditions Actes Sud, et vous rappelez dans ce texte qu'elle a écrit, qu'elle a prononcé un discours qui s'appelle « On peut exiger de l'homme qu'il affronte la vérité ». Pourquoi un tel acharnement de sa part à la recherche de la vérité, vous qui la connaissez si bien.
Ouais, parce qu'elle a la certitude qu'elle est l'enfant du mal et que tout reste à réinventer après Auschwitz. Elle est condamnée par l'aporie, c'est même pas une aporie, c'est un postulat nihiliste que lance Théodore Adorno, le grand philosophe du langage, en 49. Il dit que écrire un poème après Auschwitz, c'est barbare. Alors c'est quelque chose de vertigineux et difficile à comprendre, mais ça signifie que rechercher la beauté, l'euphonie, en poésie et dans les arts, quels qu'ils soient, la musique, la peinture, la littérature, c'est incongru, c'est dégoûtant, parce que l'art, son but, depuis la nuit des temps, depuis que l'art existe, c'est de viser la beauté. Et au milieu du XXe siècle, le grand rêve des Lumières, des Aufklärung, hein, qui signifiait que plus on allait avancer dans le temps et plus les hommes allaient être humains, bons, heureux, parce qu'ils seraient de plus en plus savants, forts des livres et des poèmes inventés, eh bien le milieu du XXe siècle bat en brèche ce grand rêve des Lumières. Parce que c'est dans le pays le plus, je vais mettre des guillemets, mais le plus civilisé au monde, le pays de Kant, de Goethe, de Schelling, de Hölderlin, que s'organise la barbarie la plus épouvantable. Et donc, on ne croit plus, c'est l'ère du soupçon, on ne croit plus au pouvoir des mots, de la littérature, et on se dit parfois qu'il vaut mieux peut-être choisir le silence. Et elle sait qu'elle a cet héritage-là, l'héritage qui se situe dans la langue allemande, qui est la langue de sa famille, la langue de l'amour d'une certaine manière, mais aussi la langue d'Adolf Hitler. Et pourtant, à grands coups de pelle-bêche littéraire, elle va reconstruire l'espoir avec ses amis du Club 47 et avec son amant. Bon, moi, celui que je préfère, c'est Paul Celan, juif, roumain, rescapé de l'Holocauste, dont elle tombe éperdument amoureuse à la fin des années 40. Cette histoire d'amour va être très compliquée. Mais Ingeborg Bachmann, c'est le travail avec la langue et puis faire fusionner les contraires, faire que l'impossible advienne. Une fille de nazi, amoureuse, éperdue d'un juif rescapé de l'Holocauste. Il y a dans le poème que Vicky vient de lire, à la fin, une alchimie, une poétique qui est très célanienne. Il y a quelque chose qui ressemble à Célan parce que tous les deux se nourrissaient l'un l'autre énormément. Et quand vous dites toutes les deux, Charlotte et Vicky, qu'il y a quelque chose dans la création de pas du tout intellectuel, elle était immensément savante, mais quelque chose de viscéral et de très très physique. On le ressent plus que jamais dans les poèmes, parce que la poésie, c'est un art de la musique, du rythme, de l'image. Et il y a quelque chose de pas pensé dans ce que Vicky vient de nous lire, mais quelque chose d'intuitif, de ressenti, de très humain. Et ce qu'il y a de magnifique, et c'est ça la vérité de Bachmann, c'est qu'à un moment, elle oublie les livres et elle fait un pari sur le langage. Et elle arrache les mots à la nuit.
Mmh. Vous avez écrit un magnifique roman qui retrace donc justement l'histoire d'amour entre Ingeborg Bachmann et Paul Celan, qui s'appelle Ordalie. Et dans ce roman, on entre à travers le regard d'un cousin amoureux d'elle, on entre dans sa vie. Quel est en fait l'aspect de sa personnalité que vous avez plus voulu mettre en valeur dans ce livre?
Elle avait la maladie de l'espoir. Hein. Elle y croit. Elle croit au pouvoir de la littérature. Elle a été profondément marquée par l'entrée des nazis en 38 dans Klagenfurt. Là, le choc est là et elle dit que c'est le soleil, c'est les livres, c'est Rilke, c'est Baudelaire, le français qu'elle est en train de lire, qui vont la sauver du carnage. Et elle y croit éperdument et parallèlement à cette foi qu'elle place dans les mots et les livres à inventer pour demain, il y a aussi la foi qu'elle place en l'amour et à la rencontre avec l'autre. Pour elle, l'écriture, c'est un mouvement vers l'autre. Il n'y a pas de poème qui ne soit amoureux chez elle. Tous les poèmes, tous les romans qu'elle écrit, ils sont tendus vers la personne de Paul Celan. Et tous les deux s'écrivent et se répondent de livre en livre. Et ça, c'est absolument fabuleux. On le constate aussi, on peut le vérifier dans leur correspondance qui a été publiée au Seuil, Le temps du cœur, hein, c'est comme ça que c'est traduit en français. Et on voit bien qu'ils ont, été séparés parce que Paul Celan était marié. Donc c'était un amour adultère, mais elle lui offre un livre pour se consoler. Et le baume de Ingeborg Bachmann, c'est la littérature.
Alors Ingeborg Bachmann avait une relation très forte aux autres, à l'extérieur, et un de ses thèmes de prédilection, c'est l'amour, l'amour-passion. Dans ses romans, et notamment dans Malina, son grand roman, elle décrit les rapports de couple et aussi la difficulté des rapports de couple dans les années 50, 60. Elle n'est pas la première hein, à en parler, des rapports qui peuvent être des rapports de domination aussi, des rapports où la violence peut entrer en ligne de compte. Qu'est-ce qui fait que parmi les écrivaines de cette époque, elle en parle d'une manière particulière? Quelle est la tonalité d'Ingeborg Bachmann quand elle parle de cette question du couple?
Elle n'est peut-être pas dans la dialectique classique masculin-féminin qui fatalement aboutit à l'affrontement. Elle est dans l'effacement des genres. Elle est dans cette sublime poétique moi, qui m'obsède hein, depuis que j'écris, de l'androgyne. Le neutre en allemand permet beaucoup de choses aussi. Vicky en parlerait 10 milliards de fois mieux que moi. Et dans la relation entre Ivan, le héros de Malina, et moi, Ich, à un moment donné, il y a vraiment une fusion. Et Ich devient Ivan, et Ivan devient moi. Et il y a cette porosité, cet effacement des frontières génériques entre le masculin et le féminin, qui est une véritable proposition qu'elle nous offre pour le dialogue, pour la rencontre authentique avec autrui. Et cet effacement des genres, il est même d'un point de vue poétique dans toute son œuvre. En fait, c'est un génie polygraphe. Elle pratique tous les genres littéraires, le théâtre radiophonique, le roman, la poésie, l'essai. Et en fait, tout est dans tout, tout est vase communicant. C'est un tourbillon, Ingeborg Bachmann, de création. C'était une bosseuse acharnée. Elle effrayait pas mal son entourage à cause de ça, d'ailleurs. Et c'est une figure de la vie, vraiment.
Tout à l'heure, Charlotte disait que Malina n'avait pas été très bien reçue à l'époque. Est-ce que c'est parce qu'elle était trop visionnaire, trop avant-gardiste, que finalement Malina a été mal reçue?
Sans doute fait-elle peur aux hommes. Elle est quand même en couple avec un écrivain. Et c'est quand même compliqué pour une femme d'être meilleure que son mari. parfois. Je crois que ça nous parle encore aujourd'hui. C'est pour ça que ça s'est mal passé, je crois, entre... Vicky connaît mieux la partie biographique avec Max Frisch que moi, mais je pense que Max Frisch a été un peu, peut-être pas jaloux, mais
oui, dans l'envie. Pas seulement lui, je crois que pour tous les hommes, famously, Reichranitzky, il a dit de elle que la fille, il l'appelait la fille, Das Mädchen, qui est presque la petite fille, que la fille aurait plutôt dû continuer à écrire des poèmes et pas des livres. Il se moquait d'elle, qu'elle allait écrire des livres. Et je crois que c'est de ça qu'elle a souffert et de ça qu'elle est morte, vraiment. C'est ça qui l'a tuée. C'est que, pour aucune raison, elle n'a pas été reconnue pour ce qu'elle était, ce qu'elle faisait, parce que c'était vraiment très, très fortement philosophique, ce qu'elle disait. C'est pas du tout juste de la belle poésie. Et je crois que c'est Max Frisch, mais aussi tous les hommes autour d'elle, elle a vécu avant 100 ans. Elle n'a pas eu le droit d'être aussi brillante qu'elle était, et en même temps porter des robes et mettre du rouge à lèvres, mais en même temps pas vouloir être juste une femme.
Elle a écrit un autre roman inachevé, cette fois-ci, qui s'appelle Franza. Le film de Margaret von Trotta s'inspire largement de ce texte. Donc Franza raconte l'histoire d'une jeune femme, Franza, qui vit un mariage désastreux avec un grand psychiatre, professeur d'université, et qui souffre énormément de la relation et de l'emprise qu'il a eue sur elle. Est-ce que tu peux nous lire un extrait de Franza, Vicky, s'il te plaît ?
Quand cela a-t-il commencé ? On ne croit pas que cela ait toujours été ainsi. Mais on finit par savoir que cela a commencé au tout début. Quelque chose t'avertit, alors, et déjà tu n'écoutes plus. Tu places un sentiment que tu prétendras plus tard avoir été le premier devant un autre qui fut vraiment le premier. Tu es averti par une attitude, un geste de la main, une voix au timbre terne, et le moment suivant, ce peut être un mois après, tu t'efforces de découvrir quelque chose de touchant dans ce geste arrogant. Tu supposes une histoire cachée qui ne se révèle jamais, un manque d'assurance qui ne se manifeste pas. Tu aimes cette voix maintenant parce que tu perçois de la mélancolie en elle. Et si elle se fait agressive, tu y entends de l'audace, cela te plaît. Le vertige est parfait. Tu n'as pas besoin de t'abuser. La tromperie engendre une nouvelle tromperie. Rien ne t'avertit plus. Un signal unique t'est donné quand tu te trouves avec l'autre pour la première fois dans une pièce et quelque chose te commande de faire attention. Attention. La fois suivante, c'est un titre, un cours de faculté après lequel les étudiants tapent du pied. Quelques centaines de demi-fous qui prononcent le nom dont ils ont plein la bouche ou qui le brocardent. C'est une adresse, un nom sur une page d'une revue qui t'auront ôté l'idée d'écouter encore une fois l'avertissement que ton cri et ta peau, tes muscles, t'ennuient, tous tes organes réceptifs. Pourquoi cela ne m'a-t-il jamais frappé ? Il disséquait tous les êtres humains jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Qu'il ne resta plus qu'un rapport médical. Cela ne m'a jamais frappée parce que je prenais sa sévérité seulement pour une sévérité professionnelle et ne me suis jamais demandé si son comportement vis-à-vis de son frère, de sa femme, de son enfant était dénaturé. Je sais, tu ne comprendras pas cela. Il ne pouvait pas voir quelqu'un sortant des limites qu'il lui avait définies. Que de questions inutiles. Quand cela existe, et je ne l'avais pas remarqué jusque-là, quand les sadiques ne sont pas seulement dans les services psychiatriques et dans les salles de tribunaux, mais qu'on les trouve parmi nous, avec des chemises blanches impeccables et des titres de professeurs munis d'instruments de torture de l'intelligence. Non, non. Et Franza dit encore, pourquoi quelqu'un veut-il assassiner sa femme ? Pourquoi quelqu'un déteste-t-il les femmes et vit avec elles? Elle est liquide, en veillant seulement à ne pas perdre la face devant l'opinion publique, mais pas davantage non plus, car l'opinion publique, son seul juge, n'a pas de notion. Les séparations sont des histoires d'amour ratées. Ça continue, mais là, je finis.
C'est bien pour la Saint-Valentin.
Charlotte, qu'est-ce qui t'interpelle le plus dans la manière dont elle évoque les relations de domination dans le couple ?
Là, ce qui est intéressant dans l'extrait que Vicky vient de lire, c'est... Oui, il y a un mécanisme d'emprise. D'ailleurs, c'est un terme qu'on entend souvent aujourd'hui. Mais... En fait, le livre s'appelle « Le cas Franza », c'est-à-dire qu'elle ne devient plus qu'un cas psychiatrique, c'est-à-dire qu'elle est complètement déshumanisée, elle n'existe plus dans ce qu'elle peut avoir de singulier. Elle est rangée dans les symptômes, dans les cases, maladie mentale, et quelque part... Cet éminent psychiatre, qui est donc son mari, la domine complètement, puisqu'il est du côté du savoir, et elle est du côté de la maladie. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est qu'elle renverse évidemment cela. Elle dit, mais peut-être que c'est lui, le sadique, et peut-être qu'il m'a rendu malade. Enfin, elle essaye de renverser le rapport de domination. Et un peu plus loin dans le passage, puisqu'on ne pouvait pas tout garder, elle utilise le mot de fascisme privé. C'est-à-dire que ce comportement est une forme de fascisme. Et en fait, elle utilise un terme qui qualifie normalement un comportement public ou un régime politique pour le déplacer dans la sphère de l'intimité. Et quelque part, elle fait cela pour montrer que dans les relations intimes, il y a du politique, oui. Qu'on ne peut pas séparer les deux. Et ce qui la tourmente à cette époque-là, c'est que le fascisme est terminé au sens du régime politique, mais la guerre continue, c'est ce qu'elle continue d'expliquer, parce que le fascisme, c'est aussi un fonctionnement de la conscience, une manière de fonctionner qui vise à déshumaniser l'autre, à ne faire qu'il n'existe plus au nom d'un idéal ou d'une théorie scientifique. Et ça, elle va vouloir montrer que dans les relations d'amour ou les relations intimes, il peut y avoir des rapports de force. Et pourquoi elle ne parvient pas à interpréter les signaux ? Parce que dans le texte, elle dit je n'ai pas pu voir ce qui m'arrivait, mais elle perçoit quand même des choses, mais elle ne peut pas les interpréter, elle ne peut pas savoir exactement qui lui arrive parce qu'il y a cet argument d'autorité. Oui. C'est un éminent psychiatre qui est du côté de la science. Et c'est ce qui s'est passé à cette époque-là aussi. C'est la science valide des thèses qui, finalement, donne parfois le droit de commettre des crimes. Et donc, c'est très fort, quelque part, ce qu'elle dit dans ce passage.
Ça me fait penser qu'en fait, elle était aussi importante là-dedans, je crois, comme... Hannah Arendt, qui a retourné cette idée, et parce que je sais que cette idée du fascisme privé, je pense que c'est la première fois en tout cas qu'il a formulé comme ça, que les gens comme mes parents, ma mère par exemple, qui était allemande, c'était un terme qui s'est introduit dans le langage des gens. Donc, peut-être pas de tout le monde, mais je crois qu'elle a vraiment, comme Hannah Arendt, elle a aidé aux gens à réfléchir à un truc qui est vrai.
Elle disait des choses très dures sur la société de l'époque. Quand à la fin du texte, elle dit « les séparations sont des histoires d'amour ratées », en fait, elle se moque de l'opinion publique pour dire « bah non, justement, les séparations ne sont pas toujours des histoires d'amour ratées, ce sont des histoires politiques aussi, oui. Parfois. C'est-à-dire, c'est la société qui ne veut pas voir comment les femmes sont maltraitées, comment les femmes sont dominées. » Et donc, il y avait quelque chose chez elle aussi de trop avancer en termes d'utopie sociale qui faisait qu'on ne l'a pas écoutée.
C'est, comme tu dis, les femmes ne sont pas écoutées, mais je crois pour elle, c'était toujours humain. C'était l'humain.
Oui. C'est-à-dire qu'elle met en scène, elle met en scène beaucoup de femmes sous emprise ou de femmes brisées. C'est sûr que Mais il n'y a jamais chez elle, en fait, l'idée de dire d'un côté, il y a les femmes sous emprise et les hommes dominateurs. Mmh. Pas du tout. C'est-à-dire que, quelque part, oui, il y a dans la société, à son époque, un certain nombre de facteurs qui vont peut-être donner des arguments d'autorité plus facilement, peut-être, à des positions masculines, parce que c'est des positions de pouvoir. Mais elle ne dit jamais voilà, c'est qu'il y a une frontière entre les deux, parce qu'elle le dira souvent, je suis aussi parmi ces hommes que j'accuse. L'inhumain, tout le monde en est capable. Et ce n'est pas une question de différence entre les sexes. Enfin, je veux dire, il faut bien faire attention, parce que c'est des textes parfois qui peuvent être à charge contre les hommes, mais il y a toujours ce jeu aussi, puisqu'elle se cache parfois dans les personnages masculins, où elle dit « je suis le personnage masculin aussi ». Et donc, c'est ça qui est très, très intéressant aussi dans sa posture.
Oui. Elle est très, très honnête, et puis elle est courageuse, ne se place jamais dans une position victimaire, elle se plaint pas, elle propose des solutions. Elle sait que c'est complexe, qu'il va falloir du courage, mais elle avance grâce aux mots, grâce au langage. Et Hannah Arendt, oui, c'est très important aussi pour Ingeborg Bachmann, cette notion dans La crise de la culture de Hannah Arendt, la banalité du mal. C'est exactement ce que tu décris, Charlotte, avec ce déplacement du principe de domination des nazis, mais dans la sphère privée.
Oui, c'est très actuel aujourd'hui.
De façon très banale, on a en amour un dominant, un dominé, et ça peut conduire à la mort, hein, ou à la disparition.
Cécile Ladjali, vous avez parlé dans un des textes que vous avez écrit sur elle du fait qu'elle était prisonnière de sa féminité. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?
Peut-être ce que l'on disait tout à l'heure. Elle était la petite fée, hein, qui devait écrire exclusivement des poèmes, ce qui est complètement idiot, parce que la poésie, c'est peut-être de tous les genres littéraires le plus redoutable. Là, on peut bluffer peut-être sur des centaines de pages, être un peu moyen par endroit dans un roman. En poésie, il faut être bon du début à la fin, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc bon, alors, je ne sais plus qui disait, c'était Frisch.
Reichranitzky. Non, mais ils l'appelaient tous... la fille.
La petite fille. Hein.
Ouais. Ça, je sais pas. Même ceux qui lui ont donné le prix et tout.
Oui.
Le groupe.
Mais ce côté patriarche.
Oui, c'était malgré eux. C'était pas non plus méchant. C'était juste.
Non,
c'était
mais
comme ça.
Ça existe encore aujourd'hui. Je sais pas s'il y a des femmes qui écrivent dans la salle, mais on a toutes eu notre papy gâteau qui nous a dit, ma petite, je vais t'expliquer comment tu dois faire pour écrire. Hein.
Mais tu vois, voilà. Oui.
Là, on a tout ce qu'on dit. Voilà, et donc c'est cette féminité qu'elle ne déteste pas au départ, hein, elle s'en méfie étant donné le regard que les hommes portent sur elle en tant que femme. Donc c'est pour ça qu'elle va effacer les frontières du genre par moment et jouer à être homme. Mais encore une fois, elle défend le genre humain, pas
oui,
que les
ça.
Femmes contre les hommes, elle n'est pas du tout misandre. Hein, ce qui est peut-être l'écueil dans lequel un certain féminisme peut tomber aujourd'hui. Hein, parce que la lutte pour les droits de la femme, et la guerre même, on va la remporter aux côtés des hommes. On a besoin d'eux. Et elle le sait. Et elle aime les hommes, follement.
Oui, je crois que c'est ça qui lui a fait payer.
Oui.
Qu'elle aimait les hommes, elle aimait être avec les hommes, elle ne cachait pas du tout. Elle avait beaucoup d'amants. Et c'est ça qui lui est tombé dessus. Qui tu es, toi ? Tu es venu sur le monde pour avoir du plaisir. Tu dois souffrir pour être humain, non. Mais c'est ça, au fond.
Et le plaisir des femmes, ça fait tellement peur aux hommes.
Vicky, donc, tu as joué dans ce film de Margarete von Trotta, qui raconte donc l'histoire d'amour qu'a vécue Ingeborg Bachmann avec l'écrivain de langue allemande Max Frisch. Comment as-tu abordé ce rôle ?
J'ai, comme je le fais souvent, mais là c'était encore plus dur ou plus important, j'ai essayé de pas vouloir devenir elle ou de pas vouloir faire l'exercice parfait où je deviens quelqu'un qui a existé, surtout quelqu'un important en langue allemande, quelqu'un qui a été non seulement connu, mais connu pour des idées, connu pour son, son intelligence pour plein de choses, et pour un physique, une façon de parler très particulière aussi. Donc je me suis dit, je ne vais pas essayer de passer des heures à copier comment est-ce qu'elle marche, comment est-ce qu'elle parle, mais plutôt de trouver la clé pour moi, personnelle, à comprendre ou à débloquer qu'est-ce qui a fait qu'elle était comme elle était. Et ce que j'ai trouvé, moi, c'était... Alors, une fois, c'était la recherche de la vérité, que je connais moi, de moi-même aussi. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est... Comment je sais que je suis honnête, de toujours vouloir être honnête et chercher l'honnête. Et par ça, sentir toujours les frontières, parce qu'on a l'impression tout d'un coup... Moi, en tout cas, quand j'étais à l'école, tout de suite, j'avais l'impression que tout le monde ment. Tout le monde fait semblant. Personne n'est honnête. Et je me sentais très, très seule. Et que tout de suite, tu as une frontière entre toi et les autres. Et cette importance des mots, que si tu te rends compte que chaque mot que tu dis peut vouloir dire tout, tu ne peux plus parler. Et que quand elle parle, elle est dans une souffrance extrême de non seulement savoir, mais sentir l'échec et la salvation, comment dire, des mots. Et après, j'ai tout construit de là, et surtout, j'ai essayé d'oublier ce que j'avais construit et oublier ce que je pensais savoir. Donc, j'étais beaucoup très tremblante pendant le tournage, et comme si... la terre bouge un peu, tout le temps.
Mmh. Et donc, tu as joué le rôle d'une femme amoureuse, puisqu'elle était très amoureuse de Max Frisch. Ça a débuté comme une passion. Ça a continué, d'ailleurs, comme une passion. Ouais. Comment, toi, tu perçois, justement, la manière dont elle décrit
les rapports de couple ? J'ai eu du mal à tomber amoureux de Max Frisch. parce que je savais trop sur lui, et aussi parce qu'on raconte beaucoup déjà la fin. Mais... ce que j'ai appris ou compris aussi quand j'ai rencontré l'acteur, le pauvre, mais j'avais vraiment du mal à me projeter et l'aimer. Et tout d'un coup, j'ai compris que malgré elle et malgré son intelligence, c'était un brut, en fait, Max Frisch. Il était hyper intelligent, c'était un architecte de la pensée, il est parfait dans ce qu'il fait. Mais là-dedans, il est un brut. Et elle tombe pour ça dans l'idée que ça va la sauver, enfin. De trouver quelque chose qui va te mettre un peu dans un cocon ou un peu te protéger, ce qui est évidemment une illusion. Et il a fait le contraire. Donc j'ai suivi cette route. Ce qui était intéressant, parce que j'aurais cru que moi aussi, femme d'aujourd'hui, j'ai appris plein de choses et je me sens émancipée. Et j'ai vu que si je vais là-dedans, ah oui, j'ai aussi envie de ça, en fait. Une partie de moi aurait envie que quelqu'un me protège.
Elle était en cela très humaine, parce qu'effectivement, elle avait une idée d'utopie des rapports humains, d'égalité, oui. Et en même temps, elle aimait des hommes qui s'occupaient pas bien d'elle.
Oui, mais elle voulait les deux. Elle voulait l'aimer vraiment, être à la maison... être là pour lui, mais elle ne voulait pas faire le linge ou être la petite femme qui l'attend, pas du tout. Elle voulait l'aimer, avoir cette relation et cette promesse qu'elle appelle le pacte. Et le pacte, c'est la promesse que nous deux, on se met d'accord sur une chose, c'est juste pour nous. Mais elle voulait aussi avoir plein d'amants et avoir le droit que si elle s'en va à Munich, que là, elle va voir son autre amant. Et lui, ce n'était pas du tout son truc. Alors qu'au début, il a quand même dit que c'est ça qui l'attirait au début. Parce que lui, il a eu un mariage avec un enfant et une femme, très conservative, et qu'il a quitté pour elle, ou avant de le rencontrer, je crois qu'il l'a quitté, je ne sais pas. En tout cas, il savait de quoi il s'agit. Et il a quitté ça pour la liberté de l'esprit et tout. Donc, il lui a menti aussi un peu.
Ah, c'est comme Valmont et Merteuil, hein, dans Les Liaisons dangereuses. Oui. Au départ, on est libre, on est libertin, et puis à un moment, ça leur plaît plus du tout.
Oui, voilà.
Ça marche pas, en fait.
Peut-être une question intéressante aussi, c'est de se demander, quand on est artiste, est-ce qu'on peut être amoureux ? Parce qu'il y a souvent aussi une contradiction entre la condition de l'artiste, qui est la liberté, l'autonomie, la souveraineté, et l'amour, où on est dépossédé de sa souveraineté, finalement, où il n'y a pas des questions de mérite ou de justice qui entrent en compte. Et...
Il ne faut pas être en couple avec quelqu'un qui fait le même métier que nous. Moi, je ne vis pas avec un écrivain, donc tout va bien. Mais l'amour, c'est un moteur incroyable. Et puis l'amour, ce n'est pas forcément l'amour de l'amant, ça peut être l'amour de l'autre. Ça peut être... Moi, j'ai éperdument besoin de l'autre. Mais je ne pense pas forcément à mon amoureux, je pense à... aux gens qui lisent nos livres, qui voient nos films. S'il n'y a pas de rencontre, s'il n'y a pas de dialogue, l'œuvre d'art est une coquille vide. Elle n'acquiert sa légitimité que, et sa vie que par le souffle d'un lecteur, d'un spectateur. Ça reste l'être morte, sinon, je pense. Donc oui, j'ai besoin d'amour. Oui,
oui, mais c'est vrai que cet amour-là est, peut être... comment dire, un danger pour l'autre. C'est-à-dire qu'on a toujours une relation amoureuse avec quelque chose qui est hors de... Là, on, donc, c'est pas dans le salon, dans la cuisine, mais c'est mon film, mon personnage. Vraiment, la relation d'amour que j'ai avec le médium film, c'est quoi faire un film ? Et c'est les spectateurs, et c'est pas seulement parce qu'ils vont aimer ce que je fais, c'est pas ça, c'est être amoureux de ce moment de rencontre entre ce que je fais et l'autre qui reçoit ce que j'ai fait, et qu'est-ce qui va se passer, bien ou mauvais, mais... Et c'est vrai que ça, c'est spécial pour avoir une relation, d'accepter qu'il y a toujours cet autre amour qui est tout aussi vrai et vivant, même s'il n'est pas là, dans la pièce.
Mm-hmm. Vicky, est-ce que tu peux nous lire un poème d'Ingeborg Bachmann qui s'appelle « La bohème est au bord de la mer », qui est un de ses poèmes les plus connus et peut-être les plus illustratifs de sa pensée, donc à nouveau une première fois en français, puis en allemand.
Oui. La bohème est au bord de la mer. Si les maisons par ici sont vertes, je peux encore entrer dans une maison. Si les pans ici sont intacts, je marche sur un bon fond. Si peine d'amour est à jamais perdue, je la perds ici de bon gré. Si ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui vaut autant que moi. Si un mot ici touche à mes frontières, je le laisse y toucher. Si la bohème est encore au bord de la mer, de nouveau, je crois aux mers. Et si je crois à la mer, alors j'ai espoir en la terre. Si c'est moi, c'est tout un chacun qui est autant que moi. Je ne veux plus rien pour moi, je veux toucher le fond. Au fond, c'est-à-dire en la mer, je retrouverai la bohème. Ayant touché le fond, je m'éveille paisiblement. Ressurgissant du fond, je sais maintenant et plus rien ne me perd. Venez à moi, vous tous bohémiens, navigateurs, filles des ports et navires, jamais ancrés. Ne voulez-vous pas être bohémiens, vous tous, illyriens, véronais et vénitiens, jouez ces comédies qui font rire et qui sont à pleurer. Et trempez-vous 100 fois, comme je me trempais, et ne surmontez jamais les épreuves, et pourtant les ai surmontées, chaque fois de nouveau. Comme les surmonta la bohème, et un beau jour reçut la grâce d'aller à la mer, et maintenant se trouve au bord. Je touche encore aux frontières d'un mot et d'un autre pays. Je touche, fût si peu, toujours plus, à toutes les frontières. Un bohémien, un nomade, qui n'a rien, que rien ne retient. N'ayant pour seul don, depuis la mer contestée, que de voir, pays de mon choix. En allemand. Böhmen liegt am Meer. Sind hierorts Häuser grün, tret ich noch in ein Haus. Sind hier die Brücken heil, geh ich auf gutem Grund. Ist Liebesmüh in alle Zeit verloren, verliere ich sie hier gern. Bin ich's nicht, ist es einer, der so gut wie ich. Grenzt hier ein Wort an mich, so lass ich's grenzen. Liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. Ich glaub noch ans Meer, so hoffe ich auf Land. Bin ich's, so ist's ein jeder, der ist so viel wie ich. Ich will nichts mehr für mich, ich will zugrunde gehen. Zugrund, das heißt zum Meer, dort find ich Böhmen wieder. Zugrund gerichtet, wach ich ruhig auf. Von Grund auf weiß ich jetzt, und ich bin unverloren. Kommt her, ihr Böhmen alle, Seefahrer, Hafenhuren und Schiffe, unverankert. Wollt ihr nicht böhmisch sein, Illyrer, Veroneser und Venezier alle? Spielt die Komödien, die Lachen machen und die zum Weinen sind, und irrt euch hundertmal, wie ich mich irrte und Proben nie bestand, doch hab ich sie bestanden, ein ums andere Mal. Wie Böhmen sie bestand und eines schönen Tags ans Meer begnadigt wurde und jetzt am Wasser liegt. Ich grenz noch an ein Wort und an ein anderes Land. Ich grenz, wie wenig auch, an alles immer mehr. Ein Böhme, ein Vagant, der nichts hat, den nichts hält. Begabt nur noch vom Meer, das strittig ist, Land meiner Wahl zu sehen. C'est très frustrant, parce que je sais que je peux pas vous transmettre, je veux dire, ça, le truc, parce qu'elle a écrit en allemand. Il y a plein de choses qui sont presque pas possibles de traduire. Par exemple, zugrund. Donc elle dit zugrunde gehen. Et le grund, c'est le fond. Donc le, das Grund, der Meeresgrund, c'est le grund de l'océan. Donc je peux aller au fond. Mais zugrunde gehen, quelque chose qui va zugrunde, is fainting, or se décompose, ou meurt. Donc mourir ou décomposer, c'est zugrunde gehen. Mais zugrunde gehen, c'est aussi aller au fond. Donc en allemand, souvent les poèmes, ils utilisent des mots et un mot dit un autre mot. Mais en disant l'autre mot, les deux mots racontent une histoire en un mot. Alors c'est presque pas possible de traduire. Mais
c'est une tâche impossible.
Mais c'est quand même très, très très beau, la traduction.
Cette ambiguïté, elle est inhérente à la poésie en général. Hein. Ces figures de style où il y a un mot et deux sens, même des fois trois. Et là, on retrouve cette androgynie de Bachmann. Elle se compare à un bohémien à un moment donné.
Oui, et c'est elle.
Et c'est elle.
Oui.
Là, elle est devenue un bohémien. Et c'est le privilège des poètes que de pouvoir déplacer les frontières. Comme ça, Rimbaud, dans Le bateau ivre, fait la même chose. Il déplace les continents, il crée des séismes.
Charlotte, donc, ce poème énonce une fiction comme une vérité quand elle dit « la bohème est au bord de la mer », alors qu'en réalité, la bohème n'est pas au bord de la mer. Qu'est-ce que ça t'inspire ?
C'est la dimension de l'utopie et du rêve aussi qui est très importante, où elle est dans cet espace entre le rêve et la douleur. Et le rêve peut aussi être cauchemar, mais peut aussi nous faire entrevoir quelque chose de radicalement nouveau, qui était inimaginable. Et donc, la fiction est aussi réelle. Enfin, je veux dire, est aussi quelque chose qui nous permet de surmonter aussi beaucoup de choses. Et peut-être, l'entendre en allemand, c'était... tellement puissant, il y a quelque chose de très fragile et d'une voix qui s'affirme dans la fragilité.
Oui.
Et c'est ça qui est...
Et dans la destruction. Ouais. C'est ça qu'un mot peut détruire et en même temps il peut sauver. Et donc des fois, les mots qu'elle utilise, c'est comme comme...
Une lame, peut-être.
Oui, comme des lames. Mais en même temps, comme une feuille.
Parce qu'il y a cette dimension de la chute,
oui.
Où... Elle dit je touche le fond, je vais au fond des choses.
Oui.
Il y a cette idée de la chute où son monde est un monde où on chute, où on tombe. Mais ce qui est très fort, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui la rattrape.
Mmh.
Je reprends ce très beau vers qui est en titre du recueil, « Toute personne qui tombe a des ailes ».
Yeah.
Et c'est cette idée que le mot, le poème, échappe au vertige de la chute parce qu'il y a ces, la verticalité des mots, quelque chose qui tient, qui me tient et qui empêche de complètement tomber. Mmh. Et ça, dans sa poésie, il y a cette affirmation de soi, cette, cette force dans les mots qui finalement résiste à la destruction, à la chute. Et on a ce sentiment d'extrême fragilité et en même temps d'une droiture.
Oui, parce qu'elle accepte la chute et la destruction quelque part. Donc c'est, elle, elle s'effondre au fond des choses pour pas s'effondre, mais elle, elle le fait quand même.
Oui. Mais quelque part, elle dit « je suis indestructible parce que je suis déjà
détruite ».
Oui, elle
efface les frontières avec la Bohème est au bord de la mer à un moment où l'Allemagne est, est défigurée par un mur. Aussi ironie suprême de la poétesse qu'elle est, là. Les mots sont capables de ça. Alors, est-ce qu'ils vont suffire? C'est tout le dilemme de Barkman, mais elle parie dessus. C'est un pari presque pascalien. On n'a rien à perdre.
Donc là encore, en fait, elle est très avant-gardiste. Elle transgresse les frontières territoriales, elle transgresse les frontières de genre. Et elle est toujours... Enfin, à son époque, quand même, elle est morte en 1973. Oui. C'est peu fréquent. C'est encore peu fréquent. Aujourd'hui, c'est extrêmement contemporain. Mais à l'époque, c'est presque inaudible, en fait. Alors, quand on voit des photographies d'Ingeborg Bachmann, c'était une femme... très belle, très élégante. On la voit souvent avec des robes sans manches ou des chemisiers au col boutonné. Est-ce que vous savez quel était son rapport aux vêtements, Cécile Ladjali?
Non, je ne suis pas renseignée là-dessus. je vois les photos d'elle et finalement, je la trouve ravissante, forte, marquante. Je pense qu'elle était intuitivement comme ça. C'était une amoureuse, donc elle aimait...
C'est intéressant parce que j'aurais pas pensé, mais elle avait un rapport très fort aux vêtements. Oui, vraiment. Et c'est Marguerite qui m'a dit, elle dit oui, tu as vu les photos, elle avait toujours un rouge à lèvres. Et j'avais pas pensé, mais après, c'est vrai qu'on a les photos qu'on a, donc on sait pas vraiment comment elle était tous les jours. Sur toutes les photos et sur comment elle a été décrite par les gens de son temps. Apparemment, elle était toujours très, très bien habillée. Elle aimait être la dame chic, avait toujours des talons, avait toujours une jupe. Pas toujours très bien assortie. Ce qui est quand même encore mieux, je trouve.
Mais peut-être aussi parce qu'elle avait aussi cette fragilité aussi, où c'était quelqu'un... d'une extrême sensibilité, d'une timidité quand même, elle avait beaucoup de mal en société. Elle disait toujours parler en société où le langage de tous les jours, les conversations banales, c'était quelque chose d'impossible pour elle, quelque part. Et peut-être que le vêtement aussi l'aidait, pareil, à retrouver un ancrage pour affronter l'extérieur.
Oui, je crois, elle s'est donné de l'allure. Oui, c'était comme une armure ou quelque chose qu'elle pouvait porter, qui lui donnait une allure. Mais je crois que c'est encore plus complexe. Je n'ai pas complètement compris, parce qu'en même temps, si elle se met sur les petits talons, quand on est sur des talons, on est moins équilibré. Ou avec une jupe qui est très serrée, on est beaucoup plus vu, on est beaucoup plus... Parce qu'il y a des gens qui vont dans ce sens-là et qui vont se donner une protection en mettant des choses qui les cachent. Et elle a fait l'opposé. Elle s'est vraiment montrée...
Oui, mais elle se protège en s'exposant.
Oui, elle cherche le vertige partout. Et là aussi, elle cherche le vertige. Elle se met d'une manière qu'elle soit vue alors qu'elle a peur d'être vue.
Mais la contrainte, ça peut être une force aussi. Quand on crée, je ne sais pas comment tu es quand tu joues... mais moi, quand j'écris, j'aime bien m'imposer des choses qui ne vont pas être faciles a priori. Parce que c'est là que je trouve mon fil à plomb. Ça va être difficile, il faut se tenir. Et le résultat est plus heureux que, évidemment, si j'avais cherché la facilité. Bien, peut-être que les talons, la jupe un peu serrée, ça demande un effort. Mais ça, on impose.
Oui, mais c'est ça aussi qui lui donnait l'image de la petite fille. C'est pour ça qu'il l'appelait ça, et c'est pour ça qu'ils l'ont toujours remis dans cette boîte. Et apparemment, c'est toi qui as écrit dans ton livre qu'elle était aussi un peu prisonnière de sa féminité ou quelque chose.
Oui.
Donc ça revient à ça. Donc elle se mettait un peu dans cette prison qui était aussi une prison, mais en même temps lui aider. Et en plus, elle adorait aussi. Elle adorait célébrer. Elle trouvait ça juste très, très joli de mettre les belles choses et de to enjoy life, you know. Elle aimait ça.
Mais c'est comme en amour, hein. C'est toute la puissance maléfique, hein, de la servitude volontaire, hein. On devient l'esclave volontairement d'un homme qui va nous protéger, mais qui à un moment va nous dominer. On sait qu'il faut fuir le féminin, mais on est féminine jusqu'au bout des ongles. C'est très bizarre, hein, ce choix là, de la souffrance. Mmh. Et elle a beaucoup souffert, hein, Barkman, ouais, dans ses choix. Mais c'était aussi l'expression de sa liberté.
Mais il y a un vers aussi très beau d'elle. Je me tiens rayonnante devant les plus profonds abîmes. Et il y a cette idée.
Exactement.
Où elle reste quand même toujours du côté de la lumière.
Oui, c'est un poème de jeunesse qui s'appelle Profession de foi, où justement c'est une sorte de déclaration qu'elle fait au monde très jeune, en disant qu'en quelque sorte, elle aura la responsabilité de se tenir droite devant l'abîme toute sa vie. Donc, et pour finir, Vicky, dans le film, est-ce que tu as porté ces robes? Est-ce que tu as apprécié porter ces robes? Comment ça s'est passé?
Alors, c'était des robes vieilles. mais oui, c'est intéressant. Alors, normalement, je veux toujours juste jouer en pyjama, ou le moins compliqué possible, et juste être confortable et me concentrer sur l'histoire et le texte. Et rarement, les personnages m'informent qu'ils auraient besoin de vêtements. Ou souvent, je dis, mais si on trouve un truc qui est bien, c'est bien, ça suffit. Ou deux. Et ici, je suis arrivée j'entre dans cette pièce où il y avait toutes ces robes et ces chaussures, et j'avais juste envie de les mettre tous. C'est le premier film que j'ai fait où j'ai dit à la costumière, oui, tout ce que tu me donnes, je vais mettre. Toutes les petites robes et toutes les petites chaussures à talons. Et ça m'amusait tout d'un coup de mettre ça, alors que normalement, je trouve ça chiant parce qu'on ne peut pas courir, on ne peut pas bouger comme il faut. Mais là, c'est la première fois que... Donc oui, donc j'ai pris plaisir de m'aventurer là-dedans.
Et est-ce que tu construis, ou ça contribue à la construction d'un personnage, les vêtements ou les costumes qu'on te propose?
Oui, déjà le tissu. Chaque tissu a une autre énergie. Chaque vêtement a une histoire. Tu sais où est-ce qu'il a été avant, comment il a été fait, qui l'a fait. Et surtout, en tant qu'actrice, je mets souvent des vêtements qui sont des vieux vêtements dans les stocks, qui ont beaucoup d'histoire. Et là, il y a un vrai échange, je trouve. Moi, je le sens. Des fois, c'est un peu, ça me fait peur quand on met des vêtements justement d'avant-guerre ou de la guerre. C'est quoi la mémoire aussi que portent les vêtements et les tissus? Même si c'est un tissu d'aujourd'hui, quand même, c'est quoi son histoire? D'où est-ce que ça sort? C'est pas tombé du ciel. Et donc, moi, la première chose, la première fois où je rencontre le personnage, c'est quand je mets les vêtements.
Merci beaucoup, merci Cécile, merci Charlotte et merci Vicky pour cette très belle conversation.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon. Pour découvrir les coulisses exclusives de cet événement, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Chanel. À très bientôt pour un nouveau Rendez-vous littéraire.